Alors, en janvier dernier, alors que la Chine comptait ses premiers morts de la Covid-19, nous étions présents, vous et moi, à un 5 à 7. Et je vous ai dit, un petit peu fanfaron, les médias, ils en font peut-être pas un peu trop, non, sur cette Covid-19. Et vous m'avez répondu, non, personne n'a conscience de ce qui nous attend. Je reprends vos mots, le système de santé au Canada n'est sans doute pas prêt à la tempête qui s'en vient. Alors, la tempête, on y est. Vous aviez raison, j'avais évidemment tort. Alors, le système de santé canadien, après coup, est-ce qu'il a tenu le choc ou pas, docteur Quach?
On a tenu le coup pour une première vague, mais il faut pas faire, il faut faire attention parce que la deuxième vague est à nos portes. Et donc, les décisions de confinement ont été faciles, relativement faciles à prendre. Les décisions de déconfinement vont devoir être prises graduellement et il va falloir que tous les citoyens, en fait, fassent leur part. Donc, la première,
restons
je pense que
vigilants.
Le plus important,
ouais.
Restons vigilants et si on est malade, on reste chez soi.
On parle d'un déconfinement progressif en mai avec un port du masque pour tout le monde. Vous vous êtes beaucoup étonné au début de la crise que le Québec ne recommande pas dès le début le port du masque. Là aussi, au vu de l'évolution actuelle de la maladie au Québec, vous persistez, c'était une erreur.
En fait, au début de toute cette histoire-là, en janvier, je n'étais pas encore tout à fait prête à accepter le port du masque pour tous parce que en théorie, on transmettait quand on avait des symptômes. Avec le développement, avec ce qu'on a découvert, pas en Chine, parce qu'en Chine, c'était vraiment pas clair, mais quand les pays européens ont commencé à être touchés, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une transmission à partir des asymptomatiques et qu'on avait une bonne proportion de gens COVID positifs qui étaient asymptomatiques. Et dans ce contexte-là, c'est à ce moment-là que j'ai dit que les masques pouvaient avoir une efficacité, puisque quand on a l'air parfaitement bien, et qu'on continue à vaquer à nos occupations, prendre le bus, aller même faire les courses, il y a une possibilité qu'on contamine notre environnement et les gens qui sont dans le 2 mètres autour de nous. Et c'est donc dans ce contexte-là où un masque pour tous devient intéressant. Les États-Unis l'ont recommandé, le Canada l'a recommandé, le Québec l'a recommandé un peu par la suite, mais je pense que ça fait partie des mesures à prendre pour un déconfinement potentiel. C'est sûr que malgré tout, on ne reviendra pas à la vie qu'on connaissait en janvier. On s'était dans une autre ère. C'est dur à concevoir, mais ce virus-là est avec nous pendant encore plusieurs mois. Et je pense que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas un vaccin ou à tout le moins un médicament qui contrôle bien les complications, on est dans une vie complètement différente.
On parle des masques. Est-ce que tous les types de masques, médicaux, chirurgicaux, artisanaux, sont efficaces?
Ça dépend pourquoi. Alors, les masques ont deux fonctions, soit de protéger la personne qui le porte, par exemple en milieu hospitalier ou quand je vais voir un patient qui tousse et qui fait une pneumonie, je dois porter un masque et une protection oculaire. C'est sûr que dans ce contexte-là, le masque chirurgical ou de procédure, c'est le masque recommandé puisqu'il a été homologué et reconnu comme efficace à filtrer les plus grosses particules. J'ai besoin aussi de la protection oculaire parce que mes conjonctives sont une bonne porte d'entrée. Donc, dans ce contexte-là, le masque en tissu, je ne suis pas capable de vous le dire, puisque c'est différent d'un masque à l'autre. La deuxième fonction du masque, c'est le contrôle de la source. Et donc, si je suis asymptomatique, mais positive pour la COVID, quand je parle, j'émets des gouttelettes qui contiennent potentiellement du virus. Et dans ce contexte-là, une barrière de tissu fonctionne. C'est sûr qu'une fois que le tissu est mouillé, ça ne fonctionne plus.
C'est ça.
Mais tous les tissus semblent avoir une certaine fonction filtrante. Et donc, de ce point de vue-là, on peut
considérer
que
voilà, les masques artisanaux peuvent fonctionner. Une question, docteur Quach, parce que vous dites, et le gouvernement parle aussi d'une deuxième vague qui va sans doute arriver, mais il autorise le déconfinement. Une question de nos auditeurs, est-ce que le service hospitalier est prêt à cette potentielle deuxième vague?
Ça dépend. Il faut pas que, encore une fois, que ça monte trop vite et que ça monte trop haut. Donc, on a libéré des lits, on a ralenti les activités, on a augmenté le nombre de lits disponibles. Il y a une capacité maximale, là, c'est clair. Et donc, bien que certaines personnes préféraient qu'on puisse rouvrir sans regarder derrière, c'est clair qu'on ouvre et si on voit que la transmission communautaire devient trop rapide et que ça engendre des hospitalisations ou des utilisations de lits de soins intensifs trop rapides, il va y avoir un retour en arrière. La grande difficulté, c'est qu'on a beau avoir des modèles mathématiques qui sont bien faits, il y a toujours une marge d'erreur dans ces modèles-là. Et donc, ça prend une capacité de faire un suivi approprié et serré, incluant une quantité suffisante de tests bien faits pour qu'on comprenne ce qui se passe. Parce que si on fait juste attendre les hospitalisations, on a toujours 2 semaines de retard à peu près sur ce qui arrive.
Des questions que je pose nos auditeurs sur l'immunisation collective également. On y va là, sans doute. C'est une bonne solution pour vous?
Je ne sais pas. En fait, la grande question, la grande inconnue, c'est à savoir si les anticorps qu'on développe suite à la maladie nous protègent pendant longtemps ou pas. Et
L'OMS nous
donc,
dit que pour l'instant, on n'est pas sûr de ça, hein.
ben, c'est parce qu'on n'a pas assez de recul. Ça ne veut pas dire que ça ne protège pas. C'est juste qu'on a un recul de 4 mois et demi. Et donc, les premiers patients qui ont commencé à développer des anticorps en avaient fin janvier et on est fin avril. Donc, il faut déjà que ces gens-là soient réexposés et qu'on puisse valider s'ils pourront être réinfectés ou pas. Donc, c'est pour ça que la recherche est si importante et qu'il faut qu'on se donne les moyens de répondre à ces questions-là.
Vous travaillez auprès des enfants, vous êtes pédiatre, hein, on le rappelle, docteur Couache. Quelle approche préconisez-vous pour le fameux retour à l'école qu'on attend donc pour les 11 et 19 mai prochains? Vous êtes plutôt partisane d'un retour printanier, hein, je crois.
Ben, en fait, la raison pour laquelle j'étais plutôt en faveur, c'est que en septembre, on va être à peu près, on va faire face aux mêmes questionnements. Je pense que l'importance du retour à l'école ce printemps-ci, c'est de permettre aux enfants de grandir, de permettre aux enfants, surtout vulnérables, de retourner en société. Mais il faut le faire de façon prudente. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que la transmission de la maladie dans la communauté est contrôlée. Qu'à Montréal, le 19 mai, peut-être que ça sera pas le 19 mai. Je pense qu'il faut vraiment voir ce qui se passe avec les données communautaires. Je pense que dans certaines régions, ça va assez bien et donc ça va aller, hein. Mais il faut le faire prudemment. Il faut que dans les classes, il n'y ait pas trop d'enfants pour justement maintenir une certaine distance et s'assurer que les enfants qui sont le plus à risque ou ceux dont les parents sont à risque de complications soient pour l'instant gardés à la maison. C'est sûr qu'il y a plein d'enfants qui ont des conditions médicales sous-jacentes qui n'ont pas de risque à retourner à l'école. Mais si on essaie de suivre le message qui est de dire on veut pas trop d'enfants par classe, il va falloir décider qui on permet et qui on ne permet pas en classe. Et donc, c'est plus sur cette base-là que la décision va être faite, je pense.
Donc,
Pas pour le risque aux enfants, mais c'est surtout pour garder un retour en classe le plus sécuritaire possible pour les enfants, pour leurs profs et les éducatrices, et aussi pour le reste de la société. Parce qu'on ne veut pas que ça reparte en
bah c'est
flèche.
ça, donc favorable, mais prudemment. Justement, une autre question de nos auditeurs, juste sur cette deuxième vague, hein, qui nous questionne, évidemment. De quelle ampleur elle va être? Certains disent, on a vécu la première vague qui était la plus violente, la deuxième et
Ah
les
non.
autres seront moins fortes. Vous êtes d'accord avec ça?
Ah non. Ah non. Non. On a fait un très bon aplatissement de la courbe. Notre première vague n'a pas été si mal que ça. Alors, la deuxième vague pourrait être tout à fait pire. Je pense qu'il faut réaliser que le confinement qui a eu lieu pendant 6 semaines a ralenti la transmission, ce qui est très bien. Ça a permis aux hôpitaux, à tout le monde de gagner du temps, d'aller chercher les équipements de protection individuelle qui manquaient, d'aller récupérer du médicament qu'on n'avait pas nécessairement. Il fallait faire cet écrasement de la courbe-là, mais il n'y a rien qui nous garantit que la deuxième va être moins importante. Il faut réaliser qu'au Québec et au Canada en général, on n'a pas été tant touché que ça. C'est différent en Italie, c'est différent à New York, mais ici, ça a été relativement bien maîtrisé.
Donc votre mot d'ordre, on l'aura bien compris ce matin, docteur Caroline Quash, c'est ne relâchons pas l'effort, c'est bien ça.
C'est ça. Il faut réaliser que ce virus est avec nous pour rester pendant encore un bon moment, jusqu'à temps qu'on ait un vaccin ou un médicament, et que donc la vie ne pourra pas reprendre comme avant.